Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Nous rencontrons aujourd'hui Hank Bull, cofondateur du Centre d'art mythique Western Front de Vancouver. Cette émission propose une traversée de l'un des espaces les plus influents de la performance de la vidéo et des arts intermédiaires en Amérique du Nord.
Grammaire fantôme.
Merci beaucoup d'être venu. Tu nous fais grand honneur de venir à Vancouver, passer beaucoup de temps ici, à la fin du monde. Donc,
Tu disais que c'était du social housing?
Non, c'était... qu'est-ce qu'il y a en France comme ça? Pas vraiment. Un club social.
Ah, ok.
En France, vous avez des pétanques. C'est un peu ça. Des gens qui se réunissent. Ils vont bouffer ensemble. Et puis, après la mort, ils vont faire un peu un festival pour... c'était la fonction spéciale de Knights of Pythias.
Oh, okay.
Mais cela dit, ils ont tout fait. Il y avait des trucs pour les enfants, pour des femmes, pour les familles et pour un truc de communauté.
C'est la maison pour tous en France.
Oui.
La maison pour tous.
La maison pour tous. OK, voilà. Donc, c'est un peu... je viens d'apprendre ce matin... cette idée d'un troisième espace. Le premier espace, c'est chez vous, chez soi, à la maison. Mm-hmm. Le deuxième espace, c'est le boulot. Et le troisième espace, c'est les autres espaces où les gens vont réunir pour faire quelque chose, jouer aux cartes ou quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est et à l'époque... Au début du colonialisme, et surtout dans le 19e siècle, la population s'accroîtrait et il y avait des familles, du coup.
Mm-hmm.
Et il y avait le besoin d'un espace social qui n'était pas l'église, qui n'était pas la prison, qui n'était pas une manifestation de l'État et qui n'était pas la fonction de l'industrie. Donc, pour les enfants, pour la famille, pour l'époux et l'épouse. Et donc, il y avait beaucoup des manifestations comme ça en Amérique du Nord. Et le Knights of Pythias est un réseau de bâtiments un peu partout en Amérique du Nord qui fonctionne comme ça. Louis Armstrong était membre de Knights of Pythias à New Orleans. Les fêtes funèbres avec les musiciens dans la rue, c'était des productions, des maisons comme ça.
Tout à l'heure, je suis passée à côté d'un sort de petit monument. C'était marqué Knights of Pythias.
Voilà, c'est le même.
Ok.
C'est ça. Mais à la fin des années 60, début des années 70, le bâtiment était vide parce que la fonction dans la première partie du siècle, 20e siècle. C'était l'assurance. Si tu perds ton maison dans un incendie, c'est le groupe qui va repartir. Si tu es malade, c'est le groupe qui va prendre soin. Si tu es mort, c'est le groupe qui prend en charge tout ça. Mais après la Deuxième Guerre, on a vu le début des systèmes sociaux. L'assurance médicale, l'assurance de boulot, si tu n'as pas...
chômage. Ouais.
Chômage, voilà. Et tout ça. Alors, le besoin fondamental de ces institutions a disparu.
Okay.
Et leurs membres vieillissent. Alors, en 73, ce bâtiment était vide à vendre, à très bon marché, un peu perdu comme bâtiment, et les artistes ont découvert, on peut acheter un grand bâtiment comme ça pour nous, on va faire des grandes choses là-dedans. Donc, ils ont trouvé les sous, et ils ont acheté le bâtiment, un groupe de 8 artistes. Et d'un coup, il y avait toutes sortes de publics, gens qui sont venus du Japon, de partout dans le monde. Une des premières invitées ici, c'était Robert Fidieu, qui vient de la France. Il vient plusieurs fois. Et il a découvert pas seulement ce bâtiment, mais tout un réseau au Canada des artistes qui se réunissent pour faire, promouvoir le projet, pour ouvrir des espaces, pour faire autre chose qui n'était pas dans le monde de l'art commercial, donc pas dans le musée. C'était vraiment l'époque de Dreyfus, de tout ça, des artistes qui veulent faire quelque chose, de révolution.
Ça continue un peu aujourd'hui au Canada, tu trouves?
Oui, ça demeure depuis. Mm-hmm. Oui. Maintenant, le monde de l'art est très divers, mais ça c'est un des moyens. Alors maintenant, ça fait 50 ans, le Western Front est devenu une institution. Avec les fonds de l'État et le lobby des fonds des gens privés, des mécènes, c'est tout un organisme. Avec toute une histoire, il y a une archive avec des milliers de vidéos, des bandes sonores.
J'ai découvert à Berlin déjà.
Voilà.
Avant ici déjà. J'étais venue déjà à Belkin en 2021.
Ah oui, tu as rencontré Anna.
Oui, j'ai visité l'archive à l'époque.
Oui.
Après, j'ai vu l'expo à Berlin.
Ah oui?
Et oui, il y avait...
Ah oui, oui. Tu l'as vu ça? Ah oui, avec Michael Morris, Vincent Terrazzo, Image Bank, tout ça.
Oui, bien sûr. Après, quelqu'un est venu à Montpellier et m'a amené le catalogue de Image Bank.
Ah, très bien. Ah oui, voilà. C'est extraordinaire.
Ouais.
Ah oui, et alors toute cette histoire qui était à Berlin, c'est un peu l'histoire du réseau d'artistes un peu mondial, qui se réunissait par moyen des courriers, mail art, l'art de correspondance, avec une grande influence de Fluxus, qui était aussi un mouvement global avec des actionnaires qui viennent de Corée, du Japon, de partout dans le monde. Et alors, le Fluxus a eu une grande influence sur l'histoire du Western Front. Alors, nous voilà maintenant dans le foyer qui est renouvelé. Génial, ça fonctionne très bien. Le bâtisse demeure en bon état. Nous avons une galerie dont l'architecture va se transformer de temps en temps. Maintenant, un artiste de l'Australie, qui Archie Berry, c'était génial cette installation. Je ne vais pas le décrire, mais... Les expositions vont changer tous les 2-3 mois. Ça vaut le coup de passer une demi-heure avec ça. C'est extraordinaire, cette expo. Alors maintenant, on va passer par les bureaux. Voilà.
Hi.
This is Susan. Yeah, who's the director of the Western Front.
Sorry, just gave you an electric shock.
Yeah.
It's close to me, the radiator. It really makes me staticky by the end of the day.
Yeah, that's what I said when I arrived. I had like several, you know, things like a scarf and everything. So I heard already a lot about you. Yesterday I had a dinner with Vanessa. And she said, I didn't put you in contact with Susan yet. I said, well, I mean... This will happen. I don't know.
We'll see. Here you are.
That's great. Yeah. Well, we're lucky to have you in Vancouver. Yeah. And I look forward to hearing more about the QMI.
Yeah.
Because, you know, my wife, Carrie Schaefer, works for the architectural firm that designed the building.
Oh.
So Carrie's very curious to know about your experience.
Oh.
Does it work? Did you like it? And how? What's the relation between QMI and Belkin? How's the whole thing work?
Yeah, I will tell you all about it. Worked through, you know, Western Front. First of all, I have to know much more, and then I tell you everything, about the QMI and everything was happening there. And there's an open studio on Wednesday afternoon, by the way.
Oh,
if you want to come by.
Possibly. Great.
Yeah. Okay.
Wonderful.
Cool.
Okay.
Okay. Wow. Nice to meet you. So, This was the so the exhibition space is there are two rooms like that.
Mais ça va changer.
Ah, on peut pas
changer.
Oui,
c'est spécial pour cette expo. C'est fabriqué exprès, juste pour l'artiste. Donc, c'est comme dans un musée, le mur se bouge. Donc, oui. Et c'est impressionnant parce que les artistes vont toujours découvrir un autre moyen de. Alors, ici, il faut être. Ça, c'est la salle de danse. Il y a une répétition en cours maintenant. Mais tu peux, juste un clin d'œil.
Ok.
Vas-y, vas-y. Il s'agit d'une compagnie de danse qui s'appelle EDAM, Experimental Dance and Music, qui s'occupe de la danse expérimentale depuis beaucoup d'années. Donc ça, c'est leur espace dans le bâtiment. Ils sont tous des partenaires avec le Western Dance.
Donc vous êtes maintenant, on va dire, un centre d'art.
Oui, c'est une société en but non lucratif, non? Et donc.
Alors, il y a des petits panneaux tout partout, alors Grand Luxe Hall, Library.
Grand Luxe, oui, ça c'est la principale, ici, pour le Western Front.
Wow.
Donc, t'entends l'acoustique tout de suite?
Oui.
Donc, c'est un espace qui se mène très facilement au concert, séance de film, ou bien un souper. Semaine passée, on a fêté le 90e anniversaire d'un des fondateurs de Western Front. Il y a une centaine de gens, une célébration. Il y a un piano en arrière du rideau. Donc, lecture poésie. Toutes sortes d'art performance, débats, discussions, toutes sortes de choses comme ça, dans cet espace qu'on appelle les Grandes Luxes.
Bah oui, c'est très très beau. Hein. C'est,
oui, c'est beau, hein?
Ah bah oui,
c'est une bonne taille. Oui.
Avec des petits estradins qui s'ouvrent comme ça, qui s'enferment.
Oui, s'affirment. Et ça date à l'origine. Hein. Et j'imagine que ça c'est pour le chapeau.
Ah, en dessous, il y a une sorte de grille pour poser, bien sûr, son chapeau. Ouais.
Oui. Tout ça date de 1922.
Là, c'était une salle de rassemblement?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et le galerie où on vient de visiter, c'était une salle à manger à l'origine. Et il y a une cuisine derrière, importante.
Donc finalement, par le fait d'avoir investi ce lieu, vous avez aussi préservé un patrimoine.
Tout à fait.
Parce que ça n'aurait pas été préservé si vous.
Et il y avait même un lien avec The Knights of Pythias, parce que les artistes qui n'avaient pas un sou, c'était The Knights of Pythias qui était très content de voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à leur bâtiment. Ah. Et ils ont aidé avec la banque et l'assurance pour que les artistes pourraient acheter le bâtiment. Donc, et le Knights of Pythias, ça continue comme organisme.
OK.
Pas ici à Vancouver, mais il y a à côté, à New Westminster, il y a un chapitre.
Est-ce que ça serait un peu comme l'armée du salut?
Oui, oui, mais pas avec la même idéologie.
OK.
Mais il y en a beaucoup en Amérique du Nord. Il y a le Rotary Club, Kiwanis Club, des Shriners mm-hmm. qui vont porter des fez. Les hommes d'affaires, c'est une espèce de un club avec un grand bouffe tous les mois, etc., etc. Okay. Et qui donne aussi des choses bénévoles qui vont assister aux hôpitaux ou les enfants dans la rue. Ils vont faire des good works mm-hmm. Pour la communauté.
Donc là, oui, donc on ressort de la Luxury Hall. Huh? What's the name again?
Oh, le Grand Luxe.
Un grand luxe
le
en France.
Luxe, c'est un peu luxe comme volupté. Hein. Ah, okay. Ça, c'est le luxe.
Ah, le grand luxe. Oh. Après, je peux faire quelques photos ici.
Ah oui, mais vas-y.
Et là, j'enregistre, je ne peux pas tout faire.
Alors ça, c'est un peu... juste un peu des archives. Ah. Et maintenant, les archives deviennent de plus en plus importantes. Donc, les rayons sont très corrects. Ça, c'est... Et les boîtes et tout ça, c'est un standard très haut.
Alors oui, donc l'autre jour, j'avais donc j'étais dans les archives, comme je disais. Et ce que particulier dans ces archives, c'est que c'est pas du tout des archives comme voilà comme c'est des archives d'artistes. Oui. Donc il y a des petits bouts de papier, il y a
oui.
des et donc effectivement, je me suis posé la question de l'archivage parce qu'ils vont c'est certains papiers ils vont peut-être se défaire avec le temps.
Oui, il y a toutes ces questions et on a laissé tomber pas mal de choses parce qu'il y a toutes sortes de...
Ouais.
On n'a pas besoin d'une collection complète de Art Forum Magazine, ça existe au parc.
Ouais.
Mais les livres, les bouquins qu'on garde ici sont des choses qui sont un peu plus insolites, difficiles à trouver.
Des cassettes.
Particuliers, mais... Exactement. Et ça, c'est juste le papier.
Mm-hmm.
Mais l'archive plus important, dont je n'ai pas malheureusement de clé, sauf que c'est peut-être ouvert. Ah, c'est ouvert.
Mm-hmm.
Non, donc c'est l'archive électronique, l'archive des vidéos, des bandes sonores. Ça, c'est le plus important. Et voilà, pour la vidéo. Déjà.
Mais il y a une chose qui tu as beaucoup investi aussi, c'est la transmission, c'est tout,
ouais.
tout ce que expérimental lié à du mail art à la radio.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors est-ce qu'on peut parler un peu de ça de...
Oui, on peut parler un peu
ouais.
de ça. Alors cela commence avec le mail art lorsque moi j'avais l'âge de 20 ans à peu près. Et c'était l'idée d'un réseau qu'on habite une planète, on est ensemble, on est tous dans le même bateau, comme ils disent les indigènes. Mais après le mail art, est venu le téléphone. Et l'idée de la télécommunication comme une espèce de médium de communication artistique. Et à la fin des années 60, il y avait un truc qui s'appelait le slow scan, par lequel on pourrait prendre l'image d'un écran vidéo, juste une image fixe, et le transmettre par la ligne téléphonique. C'était génial. C'était l'invention d'un bonhomme dans le ham radio, radio amateur, les ondes courtes. Il voulait envoyer des images, pas seulement les sons. Donc il a inventé ce truc qui a traduit l'image vidéo en son. Et le transmettre par audio. Et puis avec le même appareil, à l'autre bord, on fait la traduction en image encore. Donc on a utilisé ce truc-là. Et puis après là, il y avait le fax. Et on avait, bien sûr, avec tout ça, la radio. Et en 1976, il y avait démarré, ici à Vancouver, une radio coopérative. Tout à fait légale. Mais l'idée d'une radio qui a le soutien des auditeurs. Et qui est pas l'État et pas le commerce. C'est une radio communautaire. Donc, un des premiers du monde. Et nous autres, ici au Western Front, on fait à l'époque de l'art performance dans la forme d'une pièce radiophonique. Et on écrit des scripts, et c'était un peu dingue. Mais c'était prêt pour diffusion, donc il nous a appelé. Est-ce que vous voulez mettre ça sur les ondes? Oh, oui, bien sûr. Donc, on a commencé une émission tous les semaines. D'abord, ça s'appelait Thinking Out Loud. Et moi, j'ai pris improvisation avec un journal, n'importe quoi, le bouquin, whatever. On parlait pendant une heure, improvisation. Et après, ça a pris plus de forme. Et avec un ami, Patrick, Hank et Patrick, H et P, ont commencé l'émission HP Radio Show. Et toutes les semaines, on a fait un peu tous les expériments. Pour nous autres, c'était de l'art, mais on disait jamais le mot art parce que c'est pas la peine. C'est plutôt juste une question d'engagement avec l'auditeur. Et on a fait toutes sortes d'expériments avec le bruitage, on a utilisé le téléphone, invité les auditeurs à parler aux ondes, on a fait les entretiens de temps en temps, on a écrit des petites pièces, on avait tous les semaines des messages de l'espace, etc. La musique faite maison, c'était un autre truc. Plein. Et c'était très scientifique. On disait, le HP Radio Show is scientifically designed to help you prepare, eat, and digest your dinner. Donc, on a fait toutes sortes de trucs avec la nourriture expérimentale aux ondes, à la radio. Pendant 8 ans, on a fait ça. Et vers la fin de cette époque, aux années 80, fin des années 80, on a découvert quelqu'un au Japon, Kogawa Tetsuo, Tetsuo Kogawa, qui a fait une expérience au Japon qui s'appelait le Mini-FM. Et Kogawa qui a fait son thèse, c'est un philosophe qui a fait son thèse sur Kafka et sur le théâtre juif dans l'Est de l'Europe. Fascinant. Mais il a fait aussi la connaissance de Félix Guattari et il a partagé cette idée de micro-politics. Le politique, la révolution à minimum. C'est pas le concept héroïque de Lénine, mais plutôt juste entre nous deux. C'est là où existe la révolution. Et il a découvert que avec des petits appareils, on peut acheter au Akihabara, c'était les trucs électroniques, on peut bâtir un émetteur radio, FM, très bon marché. Et il a fait une radio FM en stéréo de 1 watt ou bien 2 watts qui peut, ça c'est assez pour un appartement, c'est assez pour une université, un quartier, mais pas plus que ça, c'est juste très 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 local, c'est ça le micro là-dedans. Et ça, à Tokyo, a fait boom, comme les choses arrivent en Japon souvent comme ça, il y avait beaucoup de gens, des étudiants qui ont fabriqué leur même émetteur, qui ont démarré leur propre diffusion radiophonique. Donc, c'est un peu post-pirate. Et moi, j'avais fait le pirate aussi un peu à Paris, en 80, à Radio Nova. Il y avait une autre, Radio OVNI. J'étais en résidence à Paris et j'ai même pris un peu dans ça. Mais Kogawa est déjà parti. Il a écrit un texte qui s'appelait « What was Pirate Radio ?» Ça, c'est après la radio libre, il y a autre chose. Alors, il est venu à Vancouver, on a fabriqué des émetteurs ici, on a partagé un peu partout, il est allé à Montréal, à Toronto. Et donc ça, c'est une autre époque de la radio. cette espèce de radio alternative. Et puis, vers la fin des années 80, tout a changé. On a vu un peu l'avant-naissance de l'Internet. On avait déjà expérimenté avec télécommunication, donc on était prêt. Et il y avait d'un coup un réseau d'artistes, surtout en Europe, qui ont fait la diffusion de leur propre télévision, la radio. C'est devenu un peu dans la vernaculaire, un peu tout le monde. Donc les expérimenteurs du départ, ils ont parti faire autre chose, mais quand même, c'est devenu une espèce de phénomène. Et par exemple, il y avait un concept de Robert Filio qui s'appelait la fête de l'art. Et tous les années, le 17 janvier, on fêtait la naissance de l'art. La naissance de l'art, il y a un million d'années. Donc, il vaut la peine de faire fêter un peu l'anniversaire de l'art. Et donc, les artistes de raison, ils ont volé cette idée, si vous voulez. Et ça est devenu un réseau qui existe toujours. Si on tape Google, fête de l'art, vous allez trouver un réseau d'une centaine de groupes partout dans le monde qui vont se réunir le 17 janvier pour partager, mélanger, mixer le son, surtout le bruitage, le noise, toutes sortes de trucs expérimentaux radiophoniques. C'est devenu un peu le médium de cet événement. Donc c'est ça la radio maintenant. La radio se mêle avec l'Internet pour faire un autre truc. Mais la radio existe toujours. Il y a la radio UBC, il y a toutes sortes de petites radios. Et voilà. Donc ça fait longtemps depuis que je fais la radio dans un sens régulier. Mais je l'ai dans le sang, quoi.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig. Thank you.